Tout de suite, les infos. Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de l'année, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, le Burkina Faso tient enfin sa première médaille olympique. Hugues Fabrice Zango a décroché le bronze au triple saut ce jeudi matin à Tokyo. Ce 5 août, une date doublement historique pour le Burkina Faso car le pays célèbre aujourd'hui le 61e anniversaire de la proclamation de son indépendance.
Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
À l'instant, Maurice Yamyogo, premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Voilà pour vos titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue.
Omega Sport.
Du sport en ouverture de ce journal, le Burkina Faso tient enfin sa première médaille olympique. Hugues Fabrice Zango a décroché la médaille de bronze au triple saut ce jeudi matin à Tokyo lors des Jeux Olympiques. Retour sur la finale du triple saut avec Bernabé Cabri.
Certaines médailles de bronze ont le goût de l'or. Celle remportée ce jeudi par Hugues Fabrice Zango en triple saut est de celle-là. En montant sur le podium de l'épreuve d'athlétisme, le Burkinabé a décroché la toute première médaille olympique de l'histoire de son pays. En effet, depuis 1972 et sa première participation aux Jeux de Munich en Allemagne, jamais le Burkina Faso n'avait obtenu de médaille. À Tokyo, le pays a envoyé 7 athlètes, mais les espoirs de gloire olympique reposaient en grande partie sur son porte-drapeau sauteur Hugues Fabrice Zango. Le Burkinabé est arrivé lancé sur ces Jeux olympiques. En janvier, il battait le record du monde en salle dans sa discipline avec 18,07 m. Début juillet, il s'offrait le record d'Afrique en plein air, 17,82 m. Le chemin de médaille fut un peu chaotique. Le Burkinabé s'est fait peur en qualification, passant à l'arraché avec le 12e et dernier score qualificatif à 16,83 m. Cependant, Hugues Fabrice Zango n'a pas paniqué. Il ne s'est pas approché de son record personnel. Son troisième saut à 17,47 m fut suffisant pour lui permettre d'accrocher le podium. Il termine derrière le Portugais Pedro Pichardo qui a réalisé 17,98 m et le Chinois Zhong Yaming 17,57 m.
Si Teddy Tamgo est l'actuel coach de Hugues Fabrice Zango, il est important de souligner que le triple sauteur a été découvert à Ouagadougou par Christian Sanou, actuel directeur technique national de la Fédération d'athlétisme. Joint au téléphone par Bernabé Cabri, il salue une performance historique qui restera gravée dans les annales.
C'est un sentiment de pleine joie, d'abord parce que les partis aux Jeux Olympiques, en tant que l'un des favoris pour avoir rempli les minima de participation, et il a à son actif le record du monde en salle. Il fallait concrétiser cela en emmenant une médaille pour le Burkina Faso. C'est vrai que le concours était très très dur vu les conditions d'organisation, mais toujours est-il, il a su garder ses esprits, malgré la lourde pression qu'il y avait sur lui, en nous remportant cette médaille de bronze qui vaut de l'or parce que, je le dis, quelle que soit la couleur, une médaille olympique pour le Burkina, c'est du jamais vu et cela a sa juste valeur. Il était découragé, mais c'est sous l'effet du concours parce qu'il était l'un des favoris, c'est vrai, mais en toute objectivité, en toute honnêteté, hier, il ne pouvait pas avoir l'or. Il ne pouvait pas avoir la médaille d'or parce que celui-là même qui a gagné avec la meilleure performance de l'année dans le tripso. Il a amélioré ça hier encore avec 17,98. Je vais parler du Portugais Pedro Pichardo. Mais par contre, la médaille d'argent était à notre portée. La médaille d'argent était à notre portée parce que quand on prend les meilleures performances de Yves Zango, ça se situe à ce niveau. Mais le outsider qui a pris la médaille d'argent, c'est le Chinois qui est sorti de nulle part, il n'était même pas dans les pronostics, et il est venu s'intercaler entre nous. Mais toujours est-il, un concours reste un concours. Il faut prendre ça de façon positive. Et Yves n'a pas à rougir parce qu'on est content de lui, le peuple burundais est content de lui. Et ça arrive à un moment où le 5 août est un jour inoubliable pour tout le peuple burkinabé et on est très très fiers.
Dans quelles circonstances Hugues Fabrice Zango a-t-il été repéré? Christian Sanou nous raconte l'anecdote.
C'était suite à une compétition des scolaires, plus précisément l'UCBF. Il s'est trouvé qu'il a suivi ses capacités pour venir voir comment ça s'est passé. Et quelque chose a tenté de s'essayer au 100 mètres. Sur les 100 mètres, il a essayé, ça n'a pas du tout donné, on l'a lavé là-bas. Bon, comme il jouait au basket et puis il faisait le sport collectif aussi, bon, il s'est dit que peut-être il peut, si ça n'a pas marché au 100 mètres, ça peut donner au triple saut. Et il est venu faire le triple saut, il n'était pas loin de 13 mètres à l'époque, c'était 12 et quelques. Et quand je l'ai vu sauter, je me suis dit, lui, de toute façon, je le vois se comporter, il a des qualités. Et s'il est intéressé, il peut tirer son compte dedans. Et c'est comme ça qu'à la fin du concours, je l'ai approché. Je lui ai fait rapidement un bref aperçu de ce que j'attends de lui. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça, c'est parti. Et puis, on a commencé les entraînements. Je suis rentré en contact avec les parents qui ont dit qu'il n'y a pas de souci à condition que ses études sont prioritaires, à condition que on tienne compte des deux. On a dit qu'il n'y a pas de souci. Il est arrivé tard. Il fallait déjà mettre l'accent sur le travail de coordination. Il était très incoordonné pour quelqu'un qui arrive déjà presque dernière année junior. Donc, il fallait vraiment le façonner et en termes de souplesse, en termes de coordination et les autres capacités biomotrices, à savoir la force, la vitesse et puis l'endurance. La vitesse, ça, il l'avait déjà, plus ou moins, mais il fallait le façonner. Et il faut dire qu'il a reçu de l'accompagnement de la part des autorités de la fédération et même de ses parents, surtout sa famille. À qui je tire mon chapeau parce que c'est l'une des rares fois que des parents peuvent dépenser des millions, investir dans des millions pour leurs enfants pour qu'ils fassent du sport.
Nous sommes le 5 août 2021, il y a 61 ans, jour pour jour, était proclamée l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, par Maurice Yamiogo, premier président du pays.
Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
L'accession à la souveraineté nationale est l'aboutissement d'un processus historique et politique. L'acquisition de l'indépendance du Burkina a été l'œuvre des élites politiques à travers leurs partis. Des élites qui ont contribué à défendre les intérêts des voltaïques dans les instances représentatives et à conscientiser les masses populaires. Parmi eux figurent Daniel Ouezan Koulibaly, Maurice Yamiogo, Gérard Kango Ouédraogo, Philippe Zenda Kabore, Nazi Boni et bien d'autres. Mais qui était-il? Le récit avec Jacob Compaoré et Elisabeth Yanogo avec la voix de Yaya Diomandé.
Maurice Yamiogo a été le premier président de la Haute-Volta et incarne l'État voltaïque au moment de l'indépendance. Membre de l'administration coloniale, Maurice Yamiogo se fait dès 1946 une place dans le dense paysage politique grâce à ses qualités oratoires. Il intègre le gouvernement de coalition formé par Ouezan Koulibaly en 1957 comme ministre de l'Agriculture sous la bannière du mouvement démocratique voltaïque. Maurice Yamiogo devient le numéro 2 du gouvernement avec le portefeuille de l'intérieur qui lui permet, lorsqu'en septembre 1958, Ouezan Koulibaly décède, d'assurer l'intérim de chef de gouvernement. Et puisqu'on parle de Daniel Ouezin Coulibaly, l'homme politique est né en 1909 et était membre du Rassemblement démocratique africain. Élu député en 1946, il représente le territoire de la Côte d'Ivoire au Parlement français avant de devenir président du Conseil de gouvernement de la Haute-Volta en 1958, année de sa disparition. Philippe Zenda Kabore a aussi été un élément clé de l'indépendance de la Haute-Volta. Il est élu en novembre 1946 avec Félix Ofoué-Boigny et Ouezin Coulibaly comme député de la colonie de Côte d'Ivoire au Parlement français. La mission de Philippe Zenda était précise, faire renaître une Haute-Volta autonome. Cet ancien militant du groupe d'études communistes pendant ses études à Dakar, que fut Zenda Kabore, meurt subitement à Abidjan le 25 mai 1947 à la fleur de l'âge en partance pour Paris. Gérard Kango Ouédraogo a été une véritable bibliothèque et témoin de l'histoire sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta jusqu'au Burkina Faso. Il a été élu député du Palais Bourbon à Paris en 1956 sous la bannière du Parti progressiste voltaïque. Il est ministre des Finances de 1958 à 1959. Gérard Kango Ouédraogo est le président fondateur de plusieurs mouvements politiques. Nazi Boni a représenté la Haute-Volta à l'Assemblée nationale française avec Gérard Kango, Henri Guissou et Mamadou Ouédraogo en 1945. Il crée en 1959 le Parti national voltaïque et lança deux ans plus tard la République de la Liberté le 6 janvier 1960. Co-fondateur du Parti pour le regroupement africain créé en 1958, son engagement lui a valu un exil de près de 6 années. Nazi Boni rentre au pays le 18 juin 1966 et décède le 16 mai 1969 dans un accident de la route.
Proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, par Maurice Yamiogo, le 5 août 1960. À l'époque, Maître Herman Yamiogo, l'un des fils de l'ancien président, devait avoir entre 12 et 13 ans. Au micro de Brigitte Yoda, il nous parle de ses souvenirs.
Cette indépendance, nous l'avons vécue dans l'euphorie à cette époque-là. C'était l'euphorie générale. Il y a plein de chansons qui en témoignent. Bon. C'était la fête partout. On a vu qu'il y avait un mécontentement de la part des colons qui étaient là. Ils perdaient quelque chose. À l'époque, j'étais enfant de troupe. J'étais à l'école militaire, qui est actuellement le Pritané. J'étais à l'époque l'école militaire africaine. Il y avait des sergents, il y avait des colons qui étaient mécontents et qui nous disaient « Vous ne savez même pas fabriquer une épingle et tout, et vous voulez votre indépendance ?» Dans le même temps, nous avions peur d'une réaction de ces gens-là, notamment les militaires qui étaient basés à Bobo, puisque le départ des troupes françaises avait été demandé. Nous avions peur que pendant que nous étions en festivité, ces militaires la rappliquent sur Ouagadougou. Donc c'était dans l'inquiétude et la joie, parce qu'on sentait en tout cas que le pays serait gouverné par ses propres fils.
Et dans la gestion de la chose publique, qu'est-ce qui a changé depuis les indépendances? Écoutez la réponse de Maître Herman Yamiogo, homme politique et écrivain.
Ce qui a changé, je crois que c'est l'attachement aux valeurs, l'attachement aux principes. Aujourd'hui, c'est clair et net. Tout a été tellement galvaudé qu'on n'imagine pas qu'on ne fasse pas la politique pour s'enrichir, pour ses propres intérêts. Il arrive souvent que des militants même disent « Mais tu vas adhérer dans tel parti, mais qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu vas avoir dans tel parti ?» Mais nous avions connu une époque où le parti, c'était comme entrer en religion. Tu as confiance aux orientations du parti, à la vision du parti. Tu rentres pour apporter quelque chose au parti et non pas pour que le parti te paye en retour. Aujourd'hui, ça a changé.
Le 5 août est la date réelle de la proclamation de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Mais toutes les cérémonies commémoratives ainsi que le discours à la nation du chef de l'État sont renvoyées au 11 décembre, date de la proclamation de la République au sein de la communauté française. Pour cette commémoration a été renvoyée au 11 décembre, élément de réponse avec Valérie.
Tantôt célébrée en août, tantôt le 11 décembre, la fête nationale du Burkina aura connu des dates différentes au gré de l'histoire. Une année après l'indépendance du pays, soit en 1961, la date du 11 décembre marque la célébration de la fête nationale. Cette date est choisie pour éviter que la célébration ne soit gâchée par la saison pluvieuse qui bat son plein en août. Et avec une population pratiquant majoritairement l'agriculture, le choix était plus qu'évident. De plus, en août, les élèves, principales composantes du défilé civil, sont déjà en vacances. Les choses vont se poursuivre ainsi jusqu'à l'avènement de la Révolution. La fête nationale est dès lors célébrée chaque 4 août, date de reprise du pouvoir par Thomas Sankara et ses compagnons. Les autres dates furent qualifiées de célébrations réactionnaires. Après l'assassinat de Thomas Sankara, virage à 180 degrés. Le 11 décembre est à nouveau retenu pour célébrer la fête du pays. Mais la question des dates va créer des bisbilles au sein de la classe politique. On parle alors du 4, du 5 août et bien d'autres dates pour la célébration de la fête de l'indépendance. Puis, en dernier ressort, les députés vont retenir la date du 11 décembre comme celle de la commémoration. Et une parade est trouvée. On ne parle plus de fête de l'indépendance, mais de fête nationale. Et chaque 11 décembre, les Burkinabés célèbrent à grand renfort de défilés et la proclamation de la République et celle de l'indépendance, même si crise sécuritaire oblige, le faste de la fête officielle a quelque peu baissé.
À l'occasion de ce 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale, le président du Faso Roch Kabore a, dans un message publié sur Facebook, rendu hommage aux devanciers pour les sacrifices consentis pour l'indépendance politique de la nation. Il a également renouvelé ses encouragements aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie qui se battent au quotidien contre les forces du mal. Tout autre chose à présent, Tribune. La nouvelle émission d'Omega Média passe ce soir à 20h30 sur nos chaînes radio de Ouaga et Bobo du Lasso et sur Omega TV. Et pour ce premier numéro, l'invité est Simon Compaoré, président du MPP. Un avant-goût de cet entretien, Simon Compaoré s'explique sur comment les pères fondateurs du MPP, derniers à rallier l'opposition, ont pu battre Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition d'alors.
Bon, écoutez, nous avons fait ce qu'on devait faire. Dieu nous a donné le coup de pouce. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Hein. C'était aussi, ça montre une seule chose, il y avait la conviction en nous. Ce qui me fait dire par rapport à ceux qui bavardent beaucoup en ville, l'image bavarde, le tout n'est pas dans le bavardage. Quand vous menez de tels combats, il faut que ça soit, ça ait comme sous-bassement la conviction, la détermination. Quand vous n'avez pas de conviction, la détermination, il suffit d'une petite difficulté et puis bon, vous perdez le chemin. Et donc, il y avait la conviction. Aujourd'hui, ce qui manque là, c'est cette rage de vaincre, cette conviction que seule la victoire appartient à ceux qui luttent.
Peut-être aussi que vous êtes arrivé avec vos moyens.
Non. Oh là là, si c'est ça... C'est ça, vous faites fausse route là. Si c'est les moyens financiers, nous avons eu les problèmes, tous les problèmes du monde. On n'en avait pas.
À l'instant, Simon Compaoré dans l'émission Tribune. L'intégralité de cet entretien est à suivre ce soir à 20h30 sur l'ensemble de nos stations radio de Omega, Ouaga et Bobo du Lasso et sur Omega TV fréquence 258 sur Canal+.
L'invité du jour.
Indépendance de la Haute Volta, souvenir des premières heures de l'instituteur à la retraite depuis maintenant, Ablassé Sinaré. Installé à coup de goût, Ablassé Sinaré se prononce également sur l'impact de la présidence de Maurice Yamugo sur la ville de coup de goût. Ablassé Sinaré est interrogé par Sabuna Ouedraogo.
C'était le groupe intellectuel qui savait ce que c'était que l'indépendance, mais la population paysanne ne savait pas exactement ce que cela voulait dire. Et d'explication en explication, dès que certains ont commencé à comprendre, il y en a même qui se disaient, mais nous ne savons même pas fabriquer une aiguille et vous parler de l'indépendance. Est-ce que vraiment nous pouvons être indépendants? Ou être indépendants là-haut, c'est pour ne plus payer l'impôt ou bien on ne va plus nous attraper pour aller mettre dans la prison? Ou bien qu'est-ce que l'indépendance là va nous donner? Et petit à petit, ils ont compris un peu le sens de l'indépendance parce que nous avons vu venir, nous-mêmes, venir nos frères voltaïques de l'époque, venir nous enseigner. Je faisais la seconde au Collège moderne de Ouagadougou et nous avons reçu le professeur Joseph Kizerbo le professeur Ali Lankwande et le professeur Compaoré. Et nous nous sommes dit que, ah bon, nous avons aussi des frères voltaïques qui ont les mêmes connaissances que les Blancs. Et nous nous sommes rendus compte que certains même valaient mieux que ces Blancs-là. Et c'est à partir de là que nous-mêmes, en tant qu'élèves, nous avons commencé à comprendre que être indépendant, c'est vraiment se prendre en charge.
Et où sont partis ces Blancs?
Ces Blancs-là, ils ont été tous rapatriés parce que vous savez que le premier président, Maurice Yamego, dès qu'il a pris l'indépendance, il a été le seul en Afrique de l'Ouest francophone à nationaliser l'armée. Et quand il a nationalisé l'armée, cela n'était pas du bon goût de Gaulle. Donc ils ont décidé de rapatrier tous les cadres, que ce soit militaires, civils, ils ont été tous rapatriés. Les inspecteurs, les professeurs, la gendarmerie, les militaires, les médecins, tous ont été rapatriés. Et il fallait que nous puissions nous débrouiller tout seuls, parce qu'ils se disaient, bon, vous avez voulu être indépendant. Vous avez voulu vivre vous-même, vous prendre en charge et ne plus compter sur la France. Débrouillez-vous, nos cadres vont rentrer. Et c'est ainsi que tous les cadres sont partis et des voltaïques de l'époque, conscients de la situation, ont accepté d'abandonner les avantages qu'ils avaient en France, un peu partout, pour rentrer au pays et remplacer ces Blancs-là à tous les postes pour que le pays puisse vivre. Je donne par exemple un exemple, un certain Sangoulé Lamizana, qui a été sollicité par Maurice et qui est venu pour la formation de notre première armée nationale.
Quand Yamego a pris le pouvoir, qu'est-ce que ça a changé à Kourougou?
Quand Maurice Yamego a pris le pouvoir, disons que Kourougou ne pouvait pas immédiatement être changé. Et disons-le, dès qu'il a effectué son voyage, premier voyage en France, et que De Gaulle l'a reçu à l'Élysée. Alors les gens se disaient, mais ah bon, qu'il est président au même titre que De Gaulle, hein? Ah, notre fils, mon vieux, nous sommes très contents d'avoir un fils qui est président, hein, et tout le monde va donc parler de Kourougou. Donc ça faisait déjà la fierté de la population et chacun s'attendait en tout cas à ce que Kourougou change de visage. Et effectivement, Kourougou avait commencé à changer de visage. Les premiers goudrons, c'est Maurice qui les a posés. Et en tant que chef d'État, vous avez vu le palais là, comment il voulait installer. Vous avez vu qui devait être un pied-à-terre. Vous avez vu son berger à Nangala. Tout ça, c'était des projets qui devaient mettre en valeur Kourougou. Mais aujourd'hui, tous ces projets-là sont dans l'eau.
Après l'indépendance, lorsque vous observez les choses, est-ce qu'on a beaucoup évolué au rythme qu'on voulait ou qu'on devait?
Disons que nous avons évolué. Les gens ont changé de mentalité. Les gens ont pris un peu le sens de l'indépendance. Mais seulement, il y a eu fausse route. Parce que, au lieu que les gens travaillent pour que l'avenir du pays soit radieux, beaucoup ont travaillé à remplir leurs poches. Alors, il y a eu un certain pillage. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de développement. Il y a eu des tentatives. Je n'en veux pour preuve. Lorsque vous avez connu Kourougou en 1960 et que vous arrivez aujourd'hui voir Kourougou, vous avez vu quand même qu'il y a eu une évolution qualitative du point de vue économique, du point de vue infrastructure. Donc, disons qu'il y a quand même un peu de développement, même si ce n'est pas suffisant.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses aillent comme il se doit?
Il faut que les gens soient des responsables. Il faut dire la vérité à la population. Il faut être honnête. Il faut être franc. Il faut être travailleur ponctuel. Ne pas venir au travail comme on veut, en disant que je sois absent ou présent, j'aurai mon salaire. Ça ne développe pas le pays. Il faut que chacun de nous prenne conscience de son devoir vis-à-vis de cet État-là pour que nous puissions un jour décoller pour notre développement.
L'exemple doit venir des autorités.
Effectivement, on a dit que l'exemple vient d'en haut et que le poisson pourrit par la tête. Alors si en haut l'exemple n'est pas donné, cela va se répercuter en bas. Pour cela, nous demandons en tout cas à nos autorités-là de doubler de vigilance et d'avoir une conscience aiguë du travail régulier et du travail bien fait pour que le pays puisse avancer.
Merci bien.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Le relais web a été assuré par Yaya Diomandé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, des infos.